France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Quelle différence entre art brut et art naïf ? L'art brut comme forme d'extrémisme, l'art brut une esthétique de l'anarchie. Et l'art contemporain, nous étions au milieu des années 70, l'art contemporain comme une singerie de l'art brut. Il était question de l'inauguration d'un nouveau musée, ou plutôt d'un lieu rassemblant des collections qui auraient très bien pu se situer en France, mais qui se trouvait en Suisse, à Lausanne. Présence des arts par François Le Targa, première diffusion sur France Culture le 16 février 1976.
Mit einem fantastischen Lichtglanz erleuchtet der Mond die kristallenen Flakons auf dem schwarzen hochheiligen Pastisch des schweigenden Dandys von Bergamo. In tönender bronzener Schale lacht hier die Fontäne metallischen Klangs.
Bonsoir. Un dossier de toute actualité et à dire vrai, une avant-première. Pierre Cabanne, vous rentrez de Lausanne où dans quelques jours va être inauguré, puis ensuite ouvert au public, un nouveau musée. Le musée de l'art brut. Alors, ça paraît un peu étrange de mettre l'art brut déjà dans un musée avec une espèce de sacralisation et d'officialité qui correspond peut-être guère à cet art sauvage.
Oui, mais... l'ambiguïté est prévue. Il ne s'agit pas de musée d'art brut, il s'agit de collection de l'art brut. Et ces collections de l'art brut, qui forment peut-être un musée finalement, mais enfin, sont installées dans un petit château des Hauts de Lausanne, le château de Beaulieu, où habita Necker. Et ce château de Beaulieu, qui est un petit château rustique du XVIIIe, a été remarquablement aménagé, une espèce de cabinet du docteur Galigari avec une charpente apparente, c'est très curieux, par Bernard Vougat et Jean de Martigny, qui sont deux architectes, et le directeur, Anne Michel Thévaux, c'est d'ailleurs lui que j'ai rencontré, et il est l'auteur d'un remarquable ouvrage sur l'art brut, préfacé évidemment par Dubuffet, puisque ses collections lui appartenaient, c'est lui qui les a réunies depuis 1945, et elles étaient dans un petit pavillon de la rue de Sèvres, d'ailleurs il faut dire difficilement accessible, et ce livre, il faut bien le préciser également, a été publié par Skira.
J'aimerais une autre précision, c'est une précision de date, Pierre Cabanne.
Oui, alors le vernissage de presse a lieu le 26 février, et l'ouverture au public a lieu quelques jours après, le 2 mars.
Alors pourquoi Dubuffet, sa collection en Suisse et pas Dubuffet en France ?
Ben vous savez, Dubuffet n'a jamais eu beaucoup de chance avec l'administration avec un grand A. En fait, il aurait bien aimé que cette collection restât en France, mais l'État lui a refusé le statut des collectivités publiques, ce qui l'a beaucoup vexé. À la suite de quoi, on lui a proposé un château en Normandie, il n'a pas voulu aller en province, et puis il a reçu des propositions de Lausanne. Et après tout, l'art brut, je ne dirais pas qu'il est né en Suisse, mais c'est dans les établissements thérapeutiques de Suisse que véritablement on s'est intéressé pour la première fois à ces malades mentaux et qu'on s'est également intéressé à leurs œuvres. Il était tout naturel, au fond, que l'art brut revienne en Suisse où les premières études sur cet art ont été faites par des psychanalystes.
Quel nom curieux, brut, pourquoi et au fond, qu'est-ce que l'art brut ?
Ben écoutez, Michel Thévaux le définit remarquablement dans son livre comme une esthétique de l'anarchie. Et d'ailleurs, au cours de mon entretien avec lui, il s'explique sur ce terme. Alors si vous voulez bien, attendons quelques instants pour le savoir de sa propre bouche. Michel Thévaux,
L'art brut est une manifestation d'individualité portée à son paroxysme expressif. Or, cet art anarchique est dans un musée, alors est-ce qu'il n'y aurait pas récupération ?
Oh, tout est contradictoire chaque fois qu'il y a un peu de vie, je n'ose pas dire culturelle, mais il y a nécessairement contradiction. Que Marx écrive dans des livres qui sont dans le commerce, c'est une contradiction. On est toujours en train de se déhancher, si vous voulez, entre deux mondes, n'est-ce pas ? On ne recommence pas l'art à zéro. Et le fait est que l'art brut, pour ne serait-ce que pour le sauvegarder, pour assurer maintenant sa conservation, il faut bien utiliser l'appareil muséologique. Cela dit, nous allons essayer dans ce musée d'éviter la solanisation, cette espèce de surenchère quasiment religieuse qui a lieu chaque fois qu'il s'agit d'art. Nous allons essayer tout de même de désacraliser l'art, essayer de ménager un accès qui ne passe pas par la dévotion habituelle.
Nous allons visiter tout à l'heure ce musée en votre compagnie, mais tout de suite parlons des exposants. Les pratiquants de l'art brut sont généralement des marginaux, voire des anonymes, des gens qui, au fond, n'ont à rendre compte à personne. Ce sont des démons ou des assassins. Tout à l'heure, vous nous citerez quelques cas très étonnants. Or, à l'origine de l'art brut, ce qui frappe, c'est qu'il y a toujours un drame.
Il y a toujours effectivement un drame et qui se situe tout ailleurs que dans le domaine de l'esthétique, bien sûr. Chose curieuse, ces auteurs d'art brut ont presque dans tous les cas commencé leurs travaux en ne pensant pas du tout au terme art. Il y a certains internés dans des hôpitaux psychiatriques qui ont commencé par exemple par faire des travaux de caricature, qui étaient une simple violence à l'égard, ou une riposte à l'égard de la répression psychiatrique. D'autres ont voulu faire des jouets, d'autres ont donné des messages médiumniques, n'est-ce pas, et prétendaient être simplement les intermédiaires du monde des défunts. On dirait que tous se sont arrangés pour exercer leur activité en dehors de la sphère des beaux-arts. Et ils auraient été furieux qu'on leur dise « vous faites de l'art ». Peut-être que ça les aurait définitivement inhibés. En tout cas, ils se sont arrangés pour tourner ce circuit institutionnel de l'art qui, dans leur cas en tout cas, jouait un rôle d'intimidation.
Pourtant, nous parlons toujours d'art brut et d'artistes. Or, on les qualifie d'artistes, mais ils ne savaient pas eux-mêmes qu'ils étaient des artistes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un artiste qui ne sait pas qu'il est un artiste ?
J'ose pas dire que c'est un artiste, ça serait une triple tautologie, mais peut-être, comme dit Dubuffet, là, l'art ne vient pas coucher dans les lits qu'on a fait pour lui, sitôt qu'il entend prononcer son nom, il se sauve. Peut-être que l'art, c'est comme Eurydice, n'est-ce pas ? Si on la regarde comme telle, on la tue. Peut-être que l'art a lieu quand précisément on oublie son nom. La solanisation dont je parlais est telle qu'elle intimide ou qu'elle incline au conformisme, de sorte que si les choses peuvent se faire hors de cette dénomination d'art, elles se font de manière beaucoup plus vivante, beaucoup plus immédiate, beaucoup plus populaire aussi, quitte à ce que, après coup, rétrospectivement, on puisse, comme vous dites, récupérer ça dans les musées, mais là, quel mal y a-t-il ?
Oui, mais les médecins qui ont soigné ces internés, ont-ils prononcé le mot « œuvre d'art » ou simplement le mot « document psychiatrique » ?
À l'origine, à l'époque où l'art brut était encore florissant dans les asiles, eh bien, on était en pleine période où les médecins objectivaient vraiment les malades et se sont servis de leur production comme d'un matériel de diagnostic. Ils essayaient de trouver des règles symptomatologiques qui leur permettaient, d'après un dessin, de déduire si le malade était paranoïaque ou schizophrène ou je ne sais quoi. Donc, à cette époque encore, les médecins avaient un regard très objectivant, enfin, assez méprisant sur les œuvres de leurs patients.
Dans votre livre, Michel Thévoz, vous proposez une explication sur les différences qui existent entre, par exemple, Klee, Chagall, Picasso, Matisse ou les artistes anciens et les pratiquants de l'art brut. Pour vous, les premiers se placent à la fois dans la société et en dehors de la société, tandis que les seconds, eux, sont totalement étrangers à la société. Ils ne composent pas, ils ne transigent pas. Au fond, d'après vous, on a l'impression que ce sont eux les vrais créateurs et pas les premiers.
Effectivement, ils poussent l'aventure jusqu'à leur dernière extrémité, n'est-ce pas ? Et je prends comme comparaison Picasso, dont il est indéniable qu'il y a chez Picasso une violence créatrice qui dans laquelle il y a quelque chose comme un vent d'art brut, n'est-ce pas? Mais l'on sent bien chez Picasso tout d'un coup ce retour aux sources, cette volonté de confronter son apport, de régler un problème avec la culture, avec Cranach, avec Velázquez, etc. On dirait que Picasso se bat sur deux fronts, n'est-ce pas? De temps en temps, il y a des poussées, et de temps en temps, il y a comme un retour logistique, comme une armée qui maintient le contact avec ses arrières, n'est-ce pas?
Les artistes bruts ne se battent, eux, que sur un seul front.
Ils n'ont pas d'arrière, ils ont rompu les amarres, ils sont partis.
Ils ne font appel à personne.
Ils ne font appel à personne, et moi, je suis sensible à cette espèce de courage qu'il y a de partir dans une aventure complètement irraisonnée, n'est-ce pas? Tout lien coupé avec tout ce qui pourrait être communication sociale. C'est ce qui leur a permis d'aller
si loin. Ils ne savent pas qu'ils mènent une aventure.
Ah, je ne pense qu'ils ne se posent pas la question. Il doit y avoir chez eux une fièvre, une exaltation et, en dépit de tout, un plaisir. Je pense que ces œuvres qui se sont faites dans la solitude d'une cellule, dans cet internement où souvent ils étaient mis à l'isolement pendant 30 ans, comme c'était le cas de Wölfli, il a dû y avoir une aventure, une fête mentale qui nous est complètement inimaginable à nous qui avons les pieds sur terre.
Quelle différence faites-vous entre l'art brut et, d'une part, l'art des enfants et l'art des naïfs?
L'art des enfants, chez les enfants, il y a aussi inculture féconde, n'est-ce pas? L'enfant ne part pas de tableaux qu'il aurait observés. Chez eux, l'art ne naît pas de l'art comme chez les artistes ordinaires. C'est un fait que la production des enfants est matinale, elle aussi. Mais elle est aussi velléitaire. Il y a des intuitions, mais fugaces, n'est-ce pas? L'enfant est incapable de se concentrer. Quand il a trouvé une astuce, eh bien, il passe à une autre et il n'a pas une clé unique qui lui permette de continuer jusqu'au bout. Tandis que chez les auteurs d'art brut, il y a une obstination d'adultes et même de vieillards récalcitrants. L'art brut, c'est un art de vieux, et j'aimerais le dire au sens le plus
positif. De vieux et de pauvres.
De vieux et de pauvres, effectivement.
Et de femmes aussi, en général.
De femmes, de tout ce qui est exclu de la société, alors que l'art culturel est un art de généralement précoce, de gens masculins et bien pourvus socialement, généralement. L'art brut, au contraire, c'est l'art de tous les damnés de la terre, si l'on peut dire.
Est-ce que ce sont des naïfs?
Oh, le terme de naïf, c'est un terme
terriblement
ambigu.
Il recouvre, oui. Évidemment, un grand nombre d'expressions, quelquefois assez discutables, d'ailleurs.
Oui, certainement. Beaucoup d'artistes en Yougoslavie ou dans d'autres pays, maintenant, à la cinquantaine, se convertissent à la naïveté parce qu'elle est à la mode, n'est-ce pas? Et, mon Dieu, la naïveté est toujours avec un pied dans la sauvagerie, mais l'autre solidement implanté dans la culture, elle aussi. Naïf, pour moi, le terme ne signifie pas grand-chose. C'est un terme entre deux. Tandis que l'art brut, c'est une forme d'extrémisme.
Selon vous, Michel Tevoz, l'art brut, c'est une contre-culture ou une anti-culture?
Ni l'un ni l'autre, c'est quelque chose d'autre que la culture. Chaque fois qu'on parle culture, on parle communication sociale, institution, etc. L'art brut n'esquisse rien de cela, rien qui soit institué, rien qui... C'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose en nous qui a été refoulé, qui ressurgit à la faveur d'un drame, d'un traumatisme. C'est une espèce de lapsus de la culture, c'est ce que la culture réprime, là.
Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans une époque où règne dans l'art le tout est permis, L'art brut n'a pas perdu quand même une grande part de sa force qu'il avait il y a une vingtaine d'années lorsque Jean Dubuffet a commencé à réunir ses collections. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il a quand même été, j'emploie un mot qui ne vous plaît pas, récupéré par l'art, parce qu'au fond, l'art est devenu brut, tout naturellement.
Oh, c'est un fait que l'art brut aujourd'hui exerce une fascination. Au fur et à mesure que la faculté artistique se perd, c'est mon sentiment, n'est-ce pas ?
Mais est-ce que tout l'art contemporain n'est pas un art brut ?
C'est en train de devenir une singerie de l'art brut. Je crois qu'il est facile de distinguer ce qui est la singerie et ce qui est la brutalité véritable. Je crois que nous serons peut-être condamnés dans les années à venir à singer cette sauvagerie, mais sans jamais arriver à la cheville de ce qui s'est fait dans le cas des aventuriers dont je vous ai parlé.
Michel Thévaux, si vous voulez bien, nous allons entrer dans ce château de Beaulieu où se trouve le musée de l'art brut. Un musée qui contient à peu près 5000 pièces dont vous ne pouvez pas tout exposer. Alors, suivez le guide.
Vous voyez comment se présente ce château, n'est-ce pas ? Tout peint en noir intérieurement. Nous sommes comme dans une grande coquille noire, si vous voulez. Noir parce que c'est un peu la couleur de l'inconscient, du rêve, en tout cas quelque chose qui nous dépayse, qui nous sort de la réalité. Et je crois qu'il fait bien ressortir, enfin, qui ôte ces œuvres de leur référence et qui leur restitue ce côté de dépaysement. Alors, ce qui se voit immédiatement, ce sont ces immenses rouleaux d'Aloïse. Aloïse qui était une... Je ne veux pas dire schizophrène parce qu'elle a été enfermée dans un hôpital psychiatrique suisse parce qu'elle avait un comportement qu'on jugeait asocial. Elle manifestait des sentiments religieux et pacifistes excessifs. Elle avait eu à souffrir de la guerre. Elle prenait la défense de certains condamnés, etc. Et publiquement, enfin, cela a justifié son internement. On pourra discuter longtemps de savoir si elle était malade ou non, ou si simplement elle a dépassé le seuil d'intolérance sociale dans son comportement. C'est une artiste suisse. Il y a beaucoup d'auteurs d'art brut suisse.
Oui, l'art brut est né en Suisse, d'ailleurs.
La collection d'art brut est née en Suisse. C'est assez amusant, d'ailleurs, de voir que dans ce pays qui, du point de vue de la création artistique, ne s'est pas particulièrement manifesté, eh bien, en revanche, a été particulièrement prolifique dans les hôpitaux psychiatriques, comme si l'art brut était, comme je le disais d'ailleurs, une sorte de retour du refoulé, d'une certaine sensibilité refoulée. En tout cas, les asiles psychiatriques suisses ont été extrêmement riches en art brut.
Et en dehors d'Aloïse, quels sont les principaux peintres que vous exposez ?
Nous avons Guillaume Pujol dans une de ces chapelles que vous voyez de part et d'autre de la nef centrale du musée. Guillaume Pujol est aussi un artiste interné, un homme qui avait un certain mal de vivre, des difficultés conjugales, et qui, du jour où il a été interné, s'est mis d'abord à avoir un comportement agressif. Il s'est mis à caricaturer les infirmiers. Ces caricatures ont eu énormément de succès et il a continué, en oubliant ce prétexte caricatural, il a continué en faisant ces dessins très étranges qui étaient d'abord abstraits, n'est-ce pas ? Il procédait par lignes ondulantes qui traçaient très librement sur ses feuilles et peu à peu émergeaient comme d'une table de voyance ces châteaux fantastiques, ces bateaux bizarres que vous voyez sur ces feuilles. Et c'est tout un monde qui est créé comme ça, non pas de son imagination, mais de la feuille elle-même. Je crois que beaucoup de ce qui s'est fait ici est né des mains plutôt que de l'esprit des auteurs.
Il y a aussi Wolfli, mais je crois que vous lui réservez une salle à part.
Oui,
c'est... Avec le sage.
C'est ça, c'est la salle qui est au fond, là-bas.
Ce sont les peintres médiums.
Les peintres médiums, oui. Le sage, l'auteur de cet immense tableau, c'est un carré de 3 mètres de côté. Le sage, c'est un cas d'art brut bien typique. Je crois qu'il vaut la peine d'en parler. C'était un mineur de fond dans le Pas-de-Calais, un homme très simple, très fruste, qui n'avait jamais vu d'art, n'est-ce pas ? Ou qui n'avait eu que rarement l'occasion d'en voir, et qui un jour, au fond de la mine, alors qu'il travaillait, a entendu des voix lui disant « Prends un pinceau et peins ». Il a obéi, il s'est acheté une toile, il y a eu un malentendu, il en avait commandé une de 30 cm, et c'est une de 3 mètres qu'on lui a envoyée, et au moment où il voulait la découper, les voix lui ont dit « Ne la découpe pas, mets-la, pose-la à ton mur, fixe-la et peins-la ».
Et les voix, je crois, lui ont ordonné d'aller acheter un pinceau et des couleurs.
C'est ça. Et c'était les médias, les défunts qui choisissaient par sa main. Lui s'est toujours défendu de faire de l'art. Chaque fois qu'on lui posait la question, il disait « Mais ça n'est pas moi, les esprits m'ont tenu la main ». Et ça, c'est très typique, je crois. C'est une manière, c'est une astuce inconsciente, si vous voulez. C'est une manière de tourner le jugement artistique. Tous ces gens-là, si on avait convoqué les critiques d'art et qu'on avait admiré leurs œuvres, auraient été complètement interdits, n'est-ce pas, intimidés par cela. Tandis qu'en disant « c'est les défunts qui peignent par ma main », c'était la liberté pour eux de tourner ces tribunaux du goût et de créer tout à leur aise.
Oui, au fond, chaque exposant a une histoire.
Une histoire, effectivement, toujours très bizarre. Vous voyez ce grand lambris en bois. Il a été sculpté par un homme, lui aussi très fruste, un berger, qui a été interné parce que, sur un coup de violence, un coup de tête, il avait voulu incendier la maison familiale avec le paquet de banques représentant les économies de la maison. On l'a interné et là, il s'est mis, désœuvré qu'il était, à travailler la paroi avec son canif. Canif qu'on lui a aussitôt saisi, mais il a pris une cuillère ébréchée, puis au fur et à mesure qu'on lui saisissait ses instruments de fortune, il a pris une anse de pot de chambre, etc. Et finalement, le mur était tellement entamé qu'on l'a laissé faire, et il a sculpté tout ce lambris de 3 mètres de côté qui est sorti de sa pure imagination, n'est-ce pas ? Vous ne lui trouverez pas de référence.
Ce qu'il a mis 3 ans à faire.
3 ans où il était interné, n'est-ce pas ? Et après, du jour où il a été libéré, Jean Dubuffet s'est enquis, mais ce Clément a répondu que libre, il n'y avait plus aucune raison qu'il sculpte, n'est-ce pas ? Il est retourné à ses chèvres et à sa liberté.
Il y a Auguste Forestier qui faisait dérailler les trains aussi.
Il les aimait trop, oui, il les aimait tellement qu'il en a fait dérailler un, ce qui lui a valu lui aussi l'internement. Et lui s'est mis alors à ramasser dans les couloirs de l'asile psychiatrique tout ce qu'il trouvait, les bouts de bois, les bouts d'étoffe, les détritus, etc. Et il se constituait une sorte de stock, un grand trésor. Et quand il se sentait en forme, ces objets lui suggéraient des assemblages qui clouaient d'une manière tout à fait grossière. Il aimait bien laisser voir l'origine, l'aberration qui consiste à détourner un objet de son usage ordinaire pour en faire un avion, un navire, une caravelle, une bête bizarre. Et il s'est fait une fête de cette chose-là pendant tout les décennies de son internement.
Et ces extraordinaires objets qui sont au premier étage, qui sont, je crois, d'un homme Ratier.
Oui, Ratier était aveugle. C'était un paysan, et pour lutter contre la dépression qui l'atteignait...
Il a fait tous ses objets étant aveugle ?
Aveugle, oui. C'est conçu par le toucher. Vous voyez, celui-ci représente la tour Eiffel, un autre, une sorte de piano, et tout cela fonctionne d'ailleurs. Il y a des manivelles qui permettent d'animer tout cela, un peu comme un tingli, si vous voulez. Mais c'est une œuvre évidemment beaucoup plus sauvage et dépaysante.
Et une cellule est réservée au dernier étage, au fameux prisonnier de Bâle.
Oui, prisonnier de Bâle, il s'appelle Giavarini, mais comme il est assassin, il est, paraît-il, recommandé de taire son nom.
Mais il est toujours prisonnier ?
Ah non, non, il est mort depuis longtemps déjà, mais sa famille existe encore. Et effectivement, à la prison de Bâle, comme il ne savait pas lire quand les autres détenus lisaient les journaux ou s'occupaient de cette manière, lui prenait du sable que par gentillesse un geôlier lui débitait ou de la mie de pain, façonnait cela et le peignait. Et il faisait des figures étranges dont il est difficile de dire aujourd'hui ce qu'elles signifient. Vous voyez ce grand personnage qui parle à une tribune devant des auditeurs qui s'en détournent. Cette espèce de carnaval bizarre et un peu sanglant, ses têtes coupées. Il y a une sorte de fête très baloise d'ailleurs, effectivement.
Carnaval de Bâle.
Un carnaval, oui, qui n'est pas du tout un carnaval pour rire ou pour fêter comme les carnavals qu'on connaît en France, mais c'est un carnaval très triste, très tragique et qui trouve, je crois, là son côté le plus magique, le plus effrayant.
Pendant que nous visitons ensemble Michel Tévaux, cet extraordinaire musée de l'art brut, je me pose une question sur l'avenir de cet art brut. Et je me demande si la chimiothérapie, en vidant les asiles, n'a pas mis définitivement un frein à la création sauvage, et si au fond l'art brut n'appartient pas désormais au passé.
Mon Dieu, l'avenir de l'homme est derrière lui, disait Nietzsche. Je crois que nous entrons effectivement dans l'ère de la normalisation, dont l'asile psychiatrique représente l'avant-garde. Mais vous savez que la société instituée étend ses mécanismes d'homogénéisation de plus en plus loin, n'est-ce pas ? L'asile psychiatrique s'étend à nous tous, nous intègre, nous normalise. Et je crois, je suis peut-être pessimiste, mais en tout cas, si l'on observe l'évolution actuelle, nous allons vers vers la normalisation. Oui, je crois que l'art brut est en raréfaction. Peut-être peut-on imaginer dans le futur une société où on retrouverait ce côté de fête, de création immédiate, populaire, sans souci de prestige qu'est l'art brut. Mais c'est sans doute une utopie.
Alors au fond, le musée d'art brut serait le seul musée au monde qui n'envisage pas d'enrichissement.
Ah, nous allons chercher quand même. Peut-être, quand je parle de normalisation, il y aura des réactions individuelles telles que des explosions d'art brut. Je ne sais pas, la question reste posée. À cela, je ne peux pas répondre. On ne peut pas faire de pronostic sur les ressources individuelles. Parfois, des catastrophes fantastiquement créatrices peuvent se produire. Nous devons être aux aguets. C'est heureux que nous puissions, par les ondes, faire un appel au cas où on constaterait quelque part une explosion créatrice de ce genre, mais je crains effectivement que ça se raréfie.
C'était Présence des Arts, l'art brut, par François Le Targa, avec Pierre Cabanne et Michel Tévoz, alors conservateur des collections du château de Beaulieu, musée de l'art brut, à Lausanne, en Suisse. Première diffusion sur France Culture, le 16 février 1976. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.